Le Grand Soir avec Divo, vos vins de petits producteurs disponibles sur divo.ch.
Le Grand Soir. Victoria Turian.
Un grand soir avec du style et du rock dans tous les coins, mais aussi de la compassion, des vieilles guitares et peut-être du Roland McDan. Et puis on vous emmènera dans l'histoire du rock'n'roll avec notre invité, une voix que vous connaissez bien, c'est celle de Jérôme Jeannin, journaliste sportif, entre autres ici metteur en scène de ce projet un peu foufou, raconter 70 ans de rock'n'roll en 2 heures, une histoire du rock qui sera jouée en décembre prochain à Mottier. Une création originale du groupe théâtral des Mascarons, mis en scène par notre invité. Et à la mise en onde ce soir, on applaudit Eric Sauji et tous ses petits potards. Bonsoir Jérôme Jeannin, bienvenue dans le Grand Soir.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Comment allez-vous à J-17?
Ben, c'est toujours un moment un peu particulier. Il y a beaucoup de fatigue parce qu'on répète beaucoup. Mm-hmm. Il y a un peu de peine à s'endormir parfois parce que le cerveau est toujours allumé. Et puis, il y a surtout une immense impatience de rencontrer le public.
Vous disiez que vous aviez passé tout le week-end pour le côté technique. C'est un boulot, mais gigantesque à part ça.
C'est fastidieux parce qu'il y a des moments d'attente. Et puis, c'est génial parce qu'il y a la lumière qui arrive, il y a le son qui arrive, l'orchestre est venu. On a des orchestres, des musiciens. On en a 2 qui viennent de Paris spécialement pour l'événement. Donc, on n'a pas l'occasion de les voir souvent. On se parle souvent à distance et tout se met en place. Et ça, c'est vraiment un moment magique qui donne aussi l'impression aux comédiens chanteurs que ça approche et que c'est en train de se faire.
C'est avec Romain Jeanneret et Camille Semenzato qui sont à la conception et à l'écriture de ce spectacle que vous vous êtes lancé dans ce projet de dingue. On en parle avec vous jusqu'à 20h. Donc Nadia Mitiko, c'est ça que je voulais dire, nous propose un titre alors qu'il déménage pour débuter. Elle a bien vu que vous étiez dans un truc rock'n'roll. Donc là, c'est du punk garage rock. Il y aura ça aussi dans votre spectacle?
Alors on a un magnifique moment sur le punk avec les Sex Pistols. C'est le monologue de Johnny Rotten.
Oh, classe. Ce groupe-là est composé que de femmes. Elles nous viennent de Zurich. Elles s'appellent Bad Bait.
We'll be right back.
Working in the Garden, c'est pas toujours de tout repos, ça dégomme hein, quand même. Avec les Bad Baits, ça rock à fond et avec notre invité aussi, puisque j'ai la joie d'accueillir notre collègue aux mille vies, Jérôme Jeannin. Vous êtes ici ce soir pour nous parler de ce spectacle incroyable qu'on n'a pas encore vu puisque ce sera le 5 décembre, que vous mettez en scène, Histoire du Rock, 70 ans, c'est l'ébullition créatrice à moitié, j'imagine, en ce moment. C'est un pari fou quand même, ça vient d'où? D'où est née cette idée gigantesque quand même?
Oui, ça part souvent un projet d'une indignation, d'une frustration. Alors moi, c'était plutôt une frustration, alors celle d'être souvent battu au blind test. Et puis aussi, pendant le Covid, hein, vous souvenez de ces quelques années un peu difficiles,
chose,
où
ouais.
On était à la maison, on devait s'occuper. Et moi, je suis un peu, j'ai un côté un peu encyclopédique. J'aime bien, quand je connais pas bien de matière, j'aime bien me renseigner et puis creuser l'histoire. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire l'histoire du rock pour le plaisir. Alors grossièrement, d'abord sur Wikipédia. Et puis après, je me suis pris au jeu. J'ai commandé plusieurs bouquins, j'ai écouté des podcasts et je me suis dit qu'en fait ça serait une super histoire à partager parce que le rock, il y a tellement d'histoires abracadabrantes et puis c'est aussi une histoire du monde de ces 70 dernières années. C'est vraiment un miroir de la société. Mmh. Et il y a quelque chose de complètement fascinant et qui se raconte bien. C'est un peu trop vaste, par contre.
Ouais,
donc,
c'est
il a fallu faire des choix.
Ouais. Oui, mais c'est ça qui doit être justement tellement difficile à faire, d'autant que vous n'êtes pas tout seul dans ce projet-là, puisque vous êtes aussi avec Romain Jeanneret et Camille Semenzato. Comment est-ce que vous vous êtes partagé? Bon, toi, tu vas faire le début du rock'n'roll. Toi, tu feras plutôt les années 70-80. Comment est-ce que vous avez partagé le travail?
Alors, évidemment, j'avais un peu d'avance, parce que moi, ça faisait déjà plusieurs mois. Je pense que ça fait 4 ans que je suis immergé dans ce milieu. Et j'ai vraiment pris ce livre-là comme référence. C'est un super livre d'un auteur qui s'appelle Christophe Pirenne, qui s'appelle Une histoire musicale du rock. Et il y a différents chapitres. Et ça a vraiment été le fil rouge pour moi. Mm-hmm. Et puis après, avec mes amis Camille et Romain, on a fait quelques séances, mais pas tant que ça finalement, parce qu'on s'est assez vite bien entendu. Romain était plus intéressé par la période British Invasion, psychédélisme. Camille a ajouté, elle a fait beaucoup de corrections sur la forme et sur le fond. Et voilà, on n'a pas eu besoin de se voir finalement tant que ça. On a beaucoup travaillé à distance et finalement ça s'est fait de manière étonnamment harmonieuse, ouais.
Il y avait beaucoup de rock'n'roll chez les Jeannin, donc pendant ces 4 ans, vos filles, votre épouse,
non,
et tout, ça
va?
Non,
pas forcément, pas forcément. Moi, je suis du milieu sportif.
Ouais.
Je suis pas forcément du milieu musical, même si ma maman est musicienne, elle joue de l'accordéon, mais je suis pas tombé dans la marmite de la musique et encore moins du rock quand j'étais petit.
Vous n'êtes pas Joël Robert, votre collègue qui est fan
non,
de métal.
Alors, voilà, c'est dommage qu'il soit pas en face de nous parce que lui, il pourrait vous parler d'Iron Maiden,
ah,
etc.
Non.
Ah non, bon, ça, je vous laisse régler ça entre vous. Mais non, moi, c'est pas mon milieu à l'origine et mm-hmm. c'est aussi pour ça que ça m'a intéressé finalement. Essayer avec un peu de prétention d'appréhender ou de maîtriser une matière qui m'était un peu lointaine.
Mais c'est pas mal en réalité, hein, d'être un peu novice comme ça, bah on se pose les bonnes questions peut-être bien. Donc c'est quand même une playlist. Là, j'ai la playlist du spectacle sous les yeux. On va la décortiquer tout à l'heure avec Eric Sougy qui a gardé un titre pour chaque période. On le fera tout à l'heure, mais il arrive dans cette émission qu'on vous tire le portrait en musique. Et je crois que le moment est arrivé. Jérôme Jeannin, vous êtes prêt?
Oui.
Allez. Jérôme Jeannin, un nom qui ne claque pas comme une star de cinéma, un nom qui se murmure, qui se respire, comme le Köln Concert de Keith Jarrett qu'on entend là, sous la voix. Il est né un 14 mars comme Blier et Einstein. C'est pas dégueu comme info et ça le fait rire, voilà. Moi ça me fait plutôt rêver, je suis née le même jour que Rick Azaray.
Caroline de Monaco aussi, hein, pour moi.
Ah oui, d'accord, voilà, c'est dit. Et donc, pour les astro-migros de mon genre, c'est un poisson doux, sensible et déterminé, comme tous les poissons. 40 ans plus tôt, le même jour, naissait une autre personne incroyable, un arrangeur redoutable, un producteur visionnaire, un humaniste élégant. Oui, Jérôme, vous êtes né le même jour que Quincy Jones.
Yes, sir.
Yes, sir.
So what we're about to do right now is pay tribute to a living legend. So I brought Naturally 7 with me to do the beat. And I brought DCP's own Rudy Currents.
And me, I go by the name of Ludacris, right? And it's a lot of people out there claiming that they bosses, but I'm here to let you know the true boss is back. Let's go!
L'architecte du son, Quincy Jones, décédé il y a un an, presque pile poil, ici avec une cool bossa nostra. On dit que sans Quincy, la musique ne sonnerait pas comme elle sonne, et donc elle sonnerait forcément moins bien. Et vous, vous le saviez que vous étiez né le même jour que Quincy ?
Non, mais je suis ravi de l'apprendre.
Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas dégueu, hein, franchement.
Je vais le mettre sur ma carte de visite.
Vous devez mettre Einstein, Blier et Quincy.
Je sais pas dans quel ordre.
Ouais, c'est ça. Est-ce que vous écoutez Quincy Jones chez vous ?
Non, pas vraiment. Je me réjouis de le découvrir parce que c'est aussi pour ça qu'on fait des projets comme ça, c'est pour découvrir.
Il y aura un spectacle peut-être dans quelques années sur We Are The World. Parce qu'il a ça en commun aussi avec vous, c'est d'avoir trouvé plein d'artistes qui n'avaient rien à voir pour un projet un peu
pour
fou.
Pour les rassembler.
Ouais, pour les rassembler.
Ça, c'est quelque chose que... Ouais, j'aime bien faire ça. Mm-hmm. Mais je pense qu'il le faisait mieux que moi.
Arrêtez. Oui, l'humilité, je crois que c'était aussi dans le portrait que j'ai lu de vous, dans un autre petit magazine qui était très bien, où j'ai pêché tout un tas d'infos. En plus de partager le jour de naissance, vous semblez également avoir aussi un côté humaniste. On dit de vous que vous aimez laisser de la place, surtout aux autres, un acte de résistance par les temps qui courent. Et pourtant, la première rencontre avec le monde n'est pas une fête. Avec la maladie de Perthes, un corset de fer, des béquilles, mais chez Jeannin, ça n'a pas plié, ça a rendu plus fort. Empêché de courir, du coup, vous lisez comme un fou. On imagine les mots comme des échappées belles. Et lorsque votre corps vous laisse enfin tranquille à nouveau, vous foncez. Ok sur glace, équipe suisse junior, gardien de foot, une revanche du physique sur le destin, puis l'évidence, la compétition, très peu pour vous. Ce que vous avez, vous, c'est un regard qui écoute. Et c'est là que le son prend le relais. Lorsqu'on vous demande la chanson qui a changé votre vie, c'est évidemment une chanson de Brassens qui arrive. La balade des gens qui sont nés quelque part.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
La balade des gens qui sont nés quelque part. Cette chanson au Brassin se rappelle que naître quelque part, c'est un hasard et que ça n'est pas la peine de s'en glorifier. Tout est dit avec chaleur, critique, mais sans arrogance. Elle a changé votre vie, cette chanson, Jérôme Jeannin.
Ouais, je ne dirais peut-être pas jusque-là, mais je pense qu'elle a éveillé quand même quelque chose. C'est le fait qu'on peut dire des choses avec une chanson. Alors, je ne sais pas si c'est un éveil politique, si ça a trait à la conscience, à la société. Mais que quand j'ai découvert Brassens, et celle-là, c'est pas la plus connue, mais puis il y a aussi ce côté, il parle des imbéciles heureux qui sont nés quelque part dans cette chanson. Mm-hmm. C'est aussi un cri de révolte contre le chauvinisme, l'esprit cocardier que franchement je déteste. Et puis c'est aussi une chanson où il y a un auteur qui parle de mon cul.
Oui, c'est ça, exactement.
La ville. Hein.
Ça, c'est pas mal, hein, franchement.
C'est aussi la révélation qu'on peut faire des choses géniales dans une chanson si on sait un peu manier le langage, si on s'amuse avec le langage. Ouais. Quoi, ouais.
Donc Brassens, pas de spectacle sur Brassens prévu ?
Mais alors, il y aurait un spectacle sur Brassens, il y aurait un spectacle sur le rock français, j'aurais envie de faire un spectacle sur l'électro, qui est aussi un truc complètement fascinant. Oui, après, j'imagine que ça a déjà été pas mal fait, Brassens, je pense. Mm-hmm. Il y a peut-être moins de surprises à ajouter.
Est-ce que Brassens est déjà venu jouer dans le Val de Travers ?
Alors ça,
vos parents vous en ont-ils parlé un jour ?
Je ne pense pas. Non.
Votre maman l'accordéoniste ?
Non, je ne pense pas.
Rien de tout ça. Vous êtes né à Fleurier, dans le Val de Travers, ou le Val de Coin ? C'est comme
ça. On peut dire ça, ouais.
Je ne sais pas si j'ai le bon accent. Je crois que je ne vois pas.
Alors, l'accent de Châtelet, on l'imite mal.
Oui, alors allez-y, comment on dirait ?
Alors il faut faire le che et puis le R gras.
Le Val
Charrette.
De quoi ? Charrette.
Ça, voilà. Ça, c'est l'accent de Châtelet.
Ok, le Val de Travers. Ils parlent de
alors
quoi?
Ça, ouais, mais souvent, on part ouais. sur l'accent jurassien. Donc, ouais, c'est une catastrophe. Pour les puristes, ça fait mal aux oreilles.
Oui, alors excusez-moi, j'arrête tout de suite. Vous êtes discret mais passionné de votre région, comme vous venez de le dire. Vous dites même de cette terre trop souvent oubliée, votre berceau culturel, sportif et associatif. L'adolescence, Jimmy Somerville, partout, dans tous les coins?
Non, pas forcément, mais je me souviens des premiers disques que j'ai achetés.
Ah oui.
C'était chez un géant Orange, à l'époque il y avait des disques.
Des 45
j'en avais acheté
tours
deux. Non, c'était les premiers 33 tours que j'ai achetés. Alors c'était pas Jimmy Somerville, c'était les Communards.
Ah bah oui, les Communards, ouais.
Et puis l'autre c'était Level 42.
Ah ouais, trop bien.
Ouais, et c'était le milieu des années 80. Et j'avais, je pense, 13 ou 14 ans. Et puis après, vous savez, il y avait ce clip de Bronski Beat aussi, Small Town Boy, avec
le gars
sur la piscine. Et je regardais ça parce que c'était l'époque d'MTV aussi, il faut se rappeler de cette époque. Mais moi, MTV, j'appréciais la musique, mais j'avais pas conscience encore de ce que ça racontait. Mm-hmm. Le combat de Jimmy Somerville pour les droits LGBT.
Oui, c'est vrai qu'il a commencé très très tôt.
Et tout ça, la question de l'homosexualité, mal vécue dans une ville de province. Enfin, c'est toutes des choses que j'ai compris beaucoup plus tard. Et avec le recul, c'est aussi ça, l'adolescence, c'est de découvrir les choses et puis de pas forcément les comprendre entièrement. Et puis, un peu plus tard, on les comprend et puis on se dit, ah, mais j'étais con, puis en même temps, non, parce que je pouvais pas forcément comprendre à l'époque. Il faut jamais juger la personne qu'on a été avant.
Non, surtout pas, non. Et puis surtout pas à l'adolescent.
Et surtout pas à l'adolescence.
C'est le moment où on se construit et où c'est un peu compliqué.
C'est une période de découverte.
Oui, oui, exactement. Et puis, il y a la scène, en fait, la scène qui vous titille dans ces années-là. Il y a les Fables de La Fontaine. Et puis, je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, mais il y a Roland McDan. Oui, parce que avant d'entrer à l'école, vous saviez tous les sketchs de McDan par cœur.
Alors, c'est pas le souvenir dont je suis le plus fier, je dois dire, avec
le recul,
mais en même temps, je ne crache pas dessus et je sais pas pourquoi.
C'est notre génération.
Puis c'était une époque où j'écoutais beaucoup d'humoristes. Alors, McDan, il y avait les émissions à la télévision.
Oui,
la
c'est
classe,
les humoristes qui passaient souvent aussi chez Drucker.
Il y avait beaucoup d'humoristes à la télévision, des proches, enfin. Moi, j'ai vraiment grandi avec ça aussi et je sais pas pourquoi. Je me suis pris, je suis tombé en amour, comme disent les Québécois, avec Roland McDan et j'ai appris tous ses sketchs. Tous, je sais pas, mais il y avait en tout cas deux disques, parce qu'il y avait vraiment encore des 33 tours, en fait des vinyles d'humoristes à l'époque. Ouais. Et j'avais bien, je pense, une dizaine de sketchs de Roland McDan à mon répertoire. Alors je les faisais pour moi, et puis de temps en temps, quand il y avait une fête de famille ou comme ça, j'allais les raconter devant mes proches, ce qui était complètement aussi étonnant pour moi, qui suis vraiment quelqu'un d'extrêmement d'intérieur et d'introverti. Et puis, c'est quelque chose qui me permettait de m'éclater, de m'extérioriser à l'époque.
On est très content de vous avoir ce soir et à 19h22 que vous puissiez nous faire un petit bout, un petit passage de Roland McDan. Non, il n'y a rien qui est resté.
Non, alors les amygdales, vous vous souvenez des amygdales?
Ah oui, les amygdales, dit quelque chose.
Les amygdales, mais je pourrais plus.
Les amimi, les amygdales, oui.
J'aurais dû me préparer.
J'aurais pu vous avertir. Au gymnase, vous jouez dans Le Bourgeois Gentilhomme, monté par Raoul Jeanneret. Je me suis demandé s'il avait quelque chose à voir avec Romain Jeanneret, avec qui vous montez Une Histoire du Rock.
Non, je crois pas. Il y a beaucoup de Jeanneret dans le canton de Neuchâtel et je crois pas qu'ils sont directement liés.
Vous entrez au groupe théâtral des Mascarons, interprété de nombreux rôles. Oui, vous vous rendez compte que vous aimez ça, vous aimez la scène. Un peu d'ailleurs comme Freddie Mercury, attention, le lien arrive. Et ces deux albums que vous n'arrêtez pas d'écouter en boucle, A Night at the Opera, qui fête ses 50 ans cette année. Et puis, voilà.
Set my alarm.
Et il y a cette chanson incroyable, ouais, Good Old Fashioned Boy.
Lover Boy.
Comment?
Lover Boy.
Lover Boy.
Pour enlever l'amour.
Ah oui, c'est pas old, non, non. Lover Boy, exactement. Non, j'enlève pas du tout l'amour. Je l'ai adoré en fait, parce que c'est cet album, c'est le deuxième album que vous adorez, A Day at the Races, c'est ça?
Il y avait un album qui était blanc et il y avait un album qui était noir, donc qui se complétait parfaitement. Et pour moi, c'était vraiment la découverte aussi de la diversité qu'on pouvait mettre dans la musique, parce que c'est quoi que Lindsay ? Alors oui, c'est du rock. Il y a des moments, c'est de l'opéra. Il y a des moments, c'est franchement disco.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et puis Freddie Mercury et ses compères Brian May, Taylor and May et Deacon, ben voilà, ils sont capables de mélanger tout ça. Alors Freddie Mercury a écrit beaucoup de chansons, mais certaines c'est plutôt Taylor, Brian May. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de complètement formidable, Queen.
Mmh. Est-ce que vous avez vu le film ?
Oui.
Et vous avez été déçu parce que vous avez l'air d'être un grand fan, hein ?
Non, j'ai pas été déçu.
Alors,
il y a une interprétation
quand même
de Rami Malek qui est absolument grandiose.
Absolument.
Après, je sais que les puristes, dont je ne fais pas partie, hein, j'ai pas cette prétention, ont été. Voilà, il y a certains aspects qui ont prêté à discussion, mais ça a quand même été produit par Brian May, hein, je crois.
Ouais.
Donc le guitariste virtuose, astrophysicien d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. À ses heures perdues, comme vous, il
donc,
a mis.
Non, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce film, notamment aussi la. Après, il y a aussi des documentaires, hein, qui sont passionnants sur Queen et aussi sur l'écriture de Bohemian Rhapsody, par exemple, qui a. Là aussi un ovni complet quoi.
Que figurez-vous que je reprends, je vais dire en crèche, non, à la chorale. Et, et franchement, c'est un morceau hein, de
le
faire à quatre voix.
Alors nous, on va clore le spectacle avec cette chanson.
Oh,
on s'est posé la question si on allait le faire, parce que c'est un sacré défi. Alors
oui.
Si Victoria, vous l'avez chanté avec la chorale, vous en savez quelque chose.
Oui. Ce sera le 13 décembre.
C'est compliqué, il y a énormément de voix, mais
oui.
C'est tellement génial.
Oui, c'est génial.
Je pense qu'on sera capable de présenter quelque chose de bon niveau. Ouais.
Oh, ce sera le 5 décembre, donc, votre spectacle, hein, une histoire du rock. Juste encore un petit peu autour de vous, parce qu'il y a l'université, l'histoire, l'anglais, le journalisme, un stage à Sheffield, en Angleterre, qui vous permet de vous rendre compte que scénariste et dramaturge, ce sont des vrais métiers.
Oui, alors j'ai deux choses à dire sur mon passage à Sheffield. Le premier, c'est que moi j'étais à l'université à Neuchâtel, je faisais de l'anglais notamment, et à Neuchâtel, c'était très basé sur le texte, on devait lire beaucoup de livres. Le premier jour où je suis arrivé, je devais lire James Joyce, Ulysses en anglais, 800 pages. Autant dire que je ne l'ai jamais fait.
Donc en anglais, parce que déjà en français, c'est chaud.
Et puis je suis arrivé à Sheffield, alors l'université en Angleterre, c'est un peu différent, mes collègues d'université étaient plus jeunes que moi, donc... Moi, j'avais peut-être 23 ou je sais pas 22, 23 ans. Ils avaient peut-être 18 ans. Mais par contre, c'était beaucoup plus concret. Il y avait des cours d'écriture scénaristique, des cours d'écriture poétique, des cours d'écriture journalistique. Et pour la première fois, je me suis dit, bah voilà, scénariste, ou écrivain, c'est pas qu'un métier pour les allumés et pour les génies. C'est aussi quelque chose qui s'apprend.
Ouais.
C'est quelque chose que malheureusement j'ai pas trouvé en Suisse. Et puis l'autre chose qui était géniale quand je suis arrivé à Sheffield, c'était la sortie du Full Monty.
Ah oui.
Évidemment, vous avez vu ce film tourné à Sheffield. Et moi, je suis arrivé et je me suis dit, ben, je vais aller voir le film dans un cinéma noir de monde, évidemment. Et les gens riaient 4 ou 5 secondes avant les gags. Je pense qu'il y avait
comme
des gens qui
Woody
le
Allen.
Voyaient pour,
ouais, pour la
deuxième ou la troisième fois. Et ça,
ouais.
Ça reste aussi un souvenir absolument génial de mon séjour en Angleterre.
Et là, c'est un grand écart tout à fait savoureux entre les genres qu'on fait, comme en musique, puisque si vous adorez Queen, vous aimez aussi la poésie toute intense et charbonneuse à la fois de ce très cher Tom Waits.
Happy, I know I've been drinking. My necktie is asleep, and the combo went back to New York. Jukebox has to take a leak, and the carpet needs a haircut, and the spotlight looks like a prison break, 'cause the telephone's out of cigarettes. And the balcony is on the make, Cause the piano has been drinking. The piano has been drinking. And light man's blind in one eye, and I can't see out of the other. And a piano tune has got a hearing aid. Showed up with his mother, as the piano has been drinking. The piano has been drinking. And the bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper milk toast. And the owner is a mental midget, the IQ of a fence post.
Ah, on doit lui couper la chic à Tom Waits quand même. The piano has been drinking, not me. Évidemment qu'on le croit.
À moitié.
Qu'à moitié. Est-ce que vous l'avez déjà vu en concert, Tom Waits?
Non, mais Tom Waits, vous savez, il prend pas l'avion.
Ouais.
Donc il vient jamais en Europe pratiquement. Donc,
il y a 20 ans, il avait fait un concert à Paris.
Ah bah voilà.
Voilà. Ou 18 ans.
Ouais, c'est un peu
ça,
l'époque où je pense où j'ai découvert Tom Waits, un peu par le théâtre aussi, parce que j'avais un ami qui avait mis des chansons de Tom Waits. Il y a un rapport assez théâtral à Tom Waits, oui, quand même, l'ambiance cabaret. Et puis il a fait un album qui s'appelle The Black Rider aussi avec Bob Wilson. Et voilà, c'est.
Là, c'est Used Songs, hein, c'est votre album préféré. Alors,
Used Songs, c'est une compilation en fait, ouais, de certaines chansons de Tom Waits.
Mais avec toujours ce truc, c'est vrai, très théâtral. Et aussi au niveau du son, c'est passionnant parce que il enregistre, par exemple, s'il y a une voiture qui passe à côté, les portes sont ouvertes généralement dans ces enregistrements. On entend la vie à côté, quoi.
Ouais, un peu de musique industrielle.
C'est ça que vous aimez,
quoi,
aussi, ouais.
Ouais, complètement. C'est une mise en scène, quelque
oui,
part.
Oui, c'est ça, des mises en scène.
Et puis il a fait l'acteur aussi, quelquefois.
Ah oui, avec Jarmusch.
Ouais, chez Jarmusch et puis chez Altman aussi avec Shortcut.
Exactement. Tout ça pour dire que vous êtes nombreux dans votre tête, Jérôme Jeannin, et déterminé à ne rien laisser de côté, puisque ben à 35 ans, vous avez quitté la sécurité de RTN pour vous former à l'école Serge Martin, une école de comédiens.
Absolument. Malheureusement, c'est fini pour cette école. C'est vraiment une petite école indépendante qui était déjà là avant qu'il y ait la manufacture qui forme évidemment la plupart des comédiens romans maintenant. Mais c'est une école un peu alternative avec un professeur, Serge Martin, c'est un personnage assez surprenant, assez froid au premier abord. Et puis, c'est devenu une sorte de figure paternelle pour toute la volée avec laquelle je me suis inscrit. Et bon, là, j'ai passé 3 ans absolument formidables à Genève. À me former au métier de comédien, tout
oui,
en sachant
temps...
que moi, c'est la mise en scène qui m'intéressait.
Ouais. Ah oui, déjà.
Et c'est pour ça qu'il m'a gardé, d'ailleurs. Parce que quand on a fait la semaine de test, on était partis pour se serrer la main et se dire au revoir sans rancune. Et puis, j'ai dit, c'est pas très grave, parce que moi, c'est la mise en scène qui m'intéresse. Puis il m'a dit, si c'est dans ces conditions, peut-être qu'on peut essayer. Et puis finalement, j'ai fait les 3 ans. Il y avait des gens beaucoup même bien meilleurs que moi.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont percé dans le métier d'acteur avec qui vous étiez?
Alors dans l'école, oui, il y en a plusieurs. Dans ma classe, il n'y a pas vraiment de personnages dont le nom vous dirait quelque chose. Mais
c'est... Il y a peut-être Vincent Cuchol, non, qui était...
Oui, alors Vincent, mais il était dans des volets précédentes. Lui,
d'accord.
Après, il y a des gens comme Gomez Mata, il y a des pointures, mais ce n'était pas dans ma période.
Mais en tout cas, vous étiez très intense parce que vous bossiez la nuit à la radio. Vous avez eu 2 petites filles, donc vous vous occupiez aussi de vos filles. Vous montiez des spectacles. Enfin voilà, c'est complètement hallucinant.
Alors, j'ai pas tout fait en même temps. Les filles sont arrivées un peu plus tard, heureusement. Ah. Alors oui, les nuits à la radio, à faire les flashs de nuit et puis à aller à l'école le lendemain, ça arrivait. Mm-hmm. Mais quand on a la passion, quand on a la chance de pouvoir faire quelque chose comme ça, on fait tout avec un immense enthousiasme.
Oui,
et puis le vivre à 35 ans, en plus, c'est génial.
Mais c'est génial, exactement. Et pour trouver le souffle, ben, y a toujours ça. Votre vélo, le bonheur. Et pour terminer ce portrait, il y a un sujet que vous n'aimeriez pas qu'on laisse de côté dans cette émission, c'est bien la place des femmes dans le rock. Donc là, il y en a une.
Bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's overboard, myself assured. I know a dirty word. Hello. With the
feel blessed. A little group has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. And I forget what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find a well, whatever, never mind. Hello, 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 hello. The empty hand of innocence transfers street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched. When we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted, paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouthed, glassy eyed, hallucinating.
Connu ce titre, Jérôme Jeannin?
Oui, bien sûr, Nirvana, Smells Like Teen Spirit, qu'on va chanter aussi à la fin du spectacle.
Oui, aussi à la fin.
Ben, on va de l'ordre chronologique, donc voilà, ça c'est le début. Nirvana, Nevermind, 91.
91, donc avec c'est, le bébé c'est et le billet et, dollars, ouais. et la piscine et puis ouais. Tout ça. 19h38, il est l'heure d'aller faire un petit tour sur la route, moi je vous dis.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Vevey-Martigny, un bouchon s'étend entre Saint-Maurice et le relais du Saint-Bernard. En direction de Martigny, suite à l'incendie d'un véhicule, la voie de droite est bloquée sur ce tronçon. Et puis, on revient à ce qui nous intéresse ce soir, c'est une histoire du rock. C'est complètement hallucinant, ce sera le 5 décembre.
Première le 5 décembre.
La première le 5 décembre. Et puis après?
Alors, on a annoncé des dates jusqu'à fin décembre pour l'instant, mais là, les premières sont pratiquement complètes déjà, donc on va relancer une série potentiellement jusqu'à fin janvier. Ouais, ouais, une vingtaine de représentations, oh, tout se passe bien.
J'espère bien, bien pouvoir venir la voir et puis en reparler peut-être dans ce grand soir. Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas qu'on mette de côté dans cette émission, c'est la place des femmes dans le rock. Et c'est vrai que c'est surprenant, elles ont joué un rôle crucial et pourtant elles sont toujours un peu derrière dans les chœurs. Il y a toujours à dire c'est bon, on est là. Alors c'est assez fou. Ça vient de quoi, ça, à votre avis?
Bah, le rock, c'est un truc phallique, ouais, à l'origine. Non, mais c'est vrai, ouais. D'ailleurs, un des grands standards de l'époque, ça s'appelait I'm a Man. La place des femmes, à l'origine, alors c'était dans le contenu de la chanson, parce que ça parle d'amour, ça parle de romance. Et puis, c'était dans le public. Beaucoup de groupies, les groupies qui recouvraient, vous savez, les chansons, les concerts des Beatles ou des Rolling Stones. Et heureusement, il y a eu quelques pionnières. Alors, il y a eu Wanda Jackson, c'est une pionnière aux États-Unis que peu de monde connaît. Puis après, on est parti en Angleterre avec notamment Marianne Faithfull.
Oui, oui. Mais encore avant, il y avait Sister Rosa Tharpe. Je sais
alors,
comment elle
oui, alors ouais. J'ai vu cet article comme quoi ouais. Elle aurait fondé le rock quelque ouais, part. Exactement. Il y avait Big Mama Thornton, ouais. Enfin, des personnages comme ça.
Blues et puis, rock, quoi. Ouais. Ouais,
oui, parce qu'évidemment, le début du rock, ça ne s'est pas créé du jour au lendemain
exactement.
Comme ça.
Ouais.
C'est un peu comme Monsieur Jourdain, vous savez, dans Le Bourgeois Gentilhomme. Sans doute, les rockers en faisaient sans le savoir à l'origine.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, les femmes ont longtemps été un peu
mise de côté,
mise
ouais.
de côté, et puis finalement elles se sont fait leur place avec des grandes figures, bah voilà, comme Faithfull, après Grace Lee, Janis Joplin, Patti Smith ou Chrissie
ouais,
Hynde,
PJ Harvey, Cat Power,
évidemment,
ouais, il y en a tout un
mais
tas,
mais ça n'a pas été facile,
fait, ouais, exactement. Est-ce que vous connaissez Kim Foley, qui était le Pygmalion du groupe les Runaways, qui était un groupe de femmes, une sorte de légende du rock, hein, ce type, il est mort il y a pas très longtemps. Je vais vous lire, il a écrit un truc qui est assez drôle. Je t'explique. Le rock'n'roll, c'est un sport de tripes. C'est avant tout un sport d'hommes. C'est pour le peuple de la nuit, les gosses de l'enfer, les masturbateurs, les exclus, les sans-grades qui n'ont pas le droit à la parole et aucun moyen de dire « Hé, je hais ce putain de monde, mon père est un connard. Feu qu'aux enfoirés, feu qu'à l'autorité, je veux un orgasme. Je veux que tu rugisses, que tu meugles. Le trip, c'est pas la libération de la femme, les filles. Le trip, c'est libido de femelle. Je veux voir les griffes et les morsures saigner le long du dos des mecs. Allez, on y retourne, c'est parti. » C'est
magnifique,
pas mal, hein?
Ouais, c'est bien. Il y a un magnifique texte sur Janis Joplin aussi que j'ai entendu dans un podcast. J'ai beaucoup écouté de podcasts, notamment sur France Inter, France Culture. Et ouais, il y a des choses vraiment magnifiques qui ont été écrites là-dessus.
Et il y a un titre qui simplement s'appelle Rock'n'Roll et qui est par les Runaways. Je vous propose qu'on l'écoute.
Genesis.
donne envie de gueuler avec les Runaways sur la première, dans ce grand soir avec le titre Rock'n'Roll. Ça tombe bien puisqu'on est plutôt Rock'n'Roll ce soir avec notre invité Jérôme Jeannin qui propose une histoire du rock, 7 tableaux pour traverser 70 ans du Rock'n'Roll. C'est fou, c'est un gros truc. Ce sera le 5 décembre la première. Sur quels critères vous avez sélectionné les époques, les mouvements, les artistes?
On a essayé de, alors il y en a deux ou trois, c'est que on a essayé de choisir des chansons qui ont soit marqué leur époque, soit qui ont été des turning points, qui ont eu une influence sur la suite. Mm-hmm. Et puis après, ben il y a un critère pratique, c'est des chansons qu'on est capable de chanter.
Oui, c'est ça.
Ou bon, qu'ont un intérêt à être chanté. On s'est posé la question par rapport pour Janis Joplin. Est-ce que ça a un intérêt de chanter du Janis Joplin sans Janis Joplin?
Ah, c'est pas mal, ouais.
Finalement, on l'a pas fait.
D'accord. C'est 15 comédiens et chanteurs qui seront sur scène. C'est un groupe impressionnant. Vous avez fait votre casting comment?
Alors, on a des habitués et puis on a des nouveaux. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des gens qui vont, je sais pas, de 70 à 18, 17 ans. 17, c'est ça qui est bien. Et puis après, bah, évidemment, nous, il y a deux aspects. Il y a le côté théâtral. Donc moi, j'ai des comédiens que je connais, d'autres que je fais volontiers travailler. Et puis, l'équipe direction vocale qui est dirigée par Anne-Vanessa Comtesse, forcément, a choisi des personnes et des voix, des personnes qui étaient capables de chanter. Après, il faut distribuer les voix, parce que tout le monde ne peut pas chanter n'importe quoi, évidemment. Ouais. Vous connaissez ça.
Et vous travaillez avec 4 musiciens. Vous disiez, donc il y a des Parisiens, mais il y a aussi un gars de Neuchâtel, qui s'appelle Quentin Siver, ou Sever, c'est selon. Guitariste professionnel qui a fait une adaptation des morceaux.
Oui, Quentin, c'est un jeune gars du Val de Travers qui est absolument passionnant. Alors il s'est passionné tout d'abord par la guitare. Il a fait une école de jazz à Berne, vous savez. Puis après, il est parti à Paris. Il a fait une école manouche aussi.
Oui.
Et puis ce qui est génial avec lui, c'est qu'alors il revient toujours déjà quand on l'appelle. Il a déjà fait plusieurs spectacles avec nous au Mascaron à Moitier. Et puis là, ce qui est particulièrement impressionnant aussi, c'est que c'est un il est multitâche en fait. Il est multi-instrumentiste. Alors lui, son truc, c'est la guitare, mais c'est lui aussi qui a préparer les instruments de répétition, parce qu'avant on faisait ça sur des cassettes, sur des CD, pour que chaque comédien chanteur ait sa voix, quelque part, sache ce qu'il doit chanter. Maintenant, dans ce qu'on appelle un drive.
Ah oui, exactement, il y a tout sur le drive.
On a les chants, les partitions,
c'est
les
vrai.
Paroles,
toutes
on
les tonalités.
Toutes les chansons décortiquées. Ouais. Et puis même pendant le concert, par exemple, Bill Haley, moi je me suis dit, mais Bill Haley, ça serait bien qu'on le fasse en live, Rock Around the Clock, évidemment.
Bah oui.
Mais il me faut la voix de Bill Haley, parce que sans Bill Haley, c'était pas terrible. Alors c'est pas un problème pour lui, il joue en live et puis il met la voix de Bill Haley derrière, donc ils sont capables de tout faire.
Ouais, c'est la musique ségrégée, c'est l'acte 1 de votre spectacle, Bill Haley.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home.
Dans notre spectacle, donc une histoire du rock'n'roll. Premier acte, il y aura quoi dans ce premier acte avec donc le sud des États-Unis, noir et blanc sont séparés par une corde sur les pistes de danse, mais le vent se lève, c'est ça que vous avez...
C'est un tout petit acte, c'est presque un prologue pour expliquer ce qu'il y a avant le rock dans les années 40, début des années 50 aux États-Unis, en fait, où les blancs écoutaient de la musique de blanc, la country ou de la variété, Sinatra. Et puis les Noirs écoutaient du blues, généralement du rhythm and blues, et ça se mélangeait pas. Mm-hmm. Sauf dans les églises, parfois. Il y a beaucoup de rockers qui sont parce que leur père était dans les chorales. Il y a beaucoup. C'est là que s'est fait la rencontre. Alors on expose brièvement ce temps où la musique était ségrégée, et il y a une chanson qui fait tout exploser. C'est ce qu'on écoute, Bill Haley, Rock Around the Clock, 1954. Il y a des émeutes dans les cinémas, c'est au générique d'un film, et c'est ça qui fait exploser cette espèce de ségrégation et qui va petit à petit rassembler les noirs et les blancs.
Et il y a le Big Bang du rock, l'acte 2. Sans transition, on passe à AC/DC. pour accompagner la première mort du rock.
Voilà, le contexte est important. On va pas chanter à CDC, et évidemment, à CDC, on sera un peu dans l'anachronisme hein, quand même dans les années 50. Pourquoi à CDC ? Parce que il y a un premier âge d'or du rock, donc qui part de Bill Haley, Elvis, That's All Right. Voilà, après on a ce qu'on appelait les hurleurs avec Little Richard, et Jerry Lewis notamment.
Les
et
hurleurs,
puis,
ah oui,
les shouters, on dit en anglais.
All right.
Et puis, on a ce qu'on a déjà appelé la première mort du rock, mais on est en 1959. Donc, vous voyez, c'est un âge d'or qui dure 4 ou 5 ans. C'est vraiment très court. Pourquoi ? Parce que il y a Elvis qui part faire son service militaire en Allemagne. Little Richard devient pasteur. Jerry Lee Lewis épouse sa cousine de 13 ans, donc il est complètement blacklisté.
Ah oui, c'est hallucinant.
Il y a des accidents de voiture. Enfin, c'est un déclin terrible. Et puis, en même temps, il y a l'industrie qui comprend qu'il y a du fric à se faire avec le rock. Donc, c'est complètement récupéré pour devenir une musique un peu sirupeuse pour les adolescents, un peu rose pastel comme ça.
C'est pas votre période préférée, hein.
Non, mais tout est passionnant, mais évidemment, ouais. Ça n'a plus rien à voir avec le rock d'origine. Et Hell's Bells, on le met en arrière-fond parce qu'il y a les cloches, il y a l'enterrement, et puis c'est le cérémonial de la première mort du rock.
Je pense que vous êtes plutôt Kings, vous, non ?
Ah ouais.
Troisième acte, la British Invasion, les années 60.
Oui, bah après la mort du rock, bah heureusement, on peut dire merci aux British qui ont finalement sauvé le rock. C'est ce qu'on raconte avec la British Invasion. Évidemment, les Beatles et les Stones qui vont conquérir les États-Unis. Et puis les Mods, les Who et les Kings. C'est beaucoup lié avec une certaine violence musicale qui apparaît. D'ailleurs, cette chanson, je crois qu'elle a été interdite aux États-Unis.
Mais non.
Ça nous fait sourire hein, aujourd'hui.
Bah oui, c'est fou.
Parce qu'à l'époque, je crois que le batteur avait déchiré la membrane de sa grosse caisse ou de sa caisse claire, je ne sais pas.
Ah oui, en plus, c'est même pas dans les paroles.
C'est ça
qui
est. En fait, il y a souvent des accidents qui créent les choses. C'est ça qui est génial aussi. Mm-hmm. Et ça crée ce son, ce gros son un peu saturé et qui a fait scandale aux États-Unis et qui a valu une censure aux États-Unis.
Niveau scandale, il n'était pas mal non plus. Hein. Ben, y a les Doors, évidemment. Riders on the Storm. Riders on the Storm avec c'est l'acte 4. Alors l'acte 4, là, on est le temps des utopies. C'est la fin des années 60, début des années 70.
Ouais, ça c'est vraiment une époque passionnante avec la lutte pour les droits civiques, l'antimilitarisme, la guerre du Vietnam et puis les voyages psychédéliques.
Alors et là, vous on dites fait. Ça. Comment vous le traitez dans le spectacle justement tout
alors,
ce
nous,
côté
on fait un trip psychédélique avec justement. Alors il y a cette chanson. On commence avec Rider on the Storm. Après il y a Jefferson Airplane, il y a Santana, puis on finit avec la période psychédélique de Pink Floyd aussi du temps de Syd Barrett. Et puis on a un tableau moi, qui me fait beaucoup rire avec voilà des festivaliers qui ont chacun leur drogue et au début ils ont un grand sourire et puis finalement ils finissent tous sur le sol. Et puis après on aborde le club des 27.
Ah oui, bah
Brian
ouais,
Jones,
évidemment.
Jim Morrison, Hendrix, etc. Donc tous ces artistes qui sont morts trop tôt à 27 ans, souvent pour des consommations abusives de drogue.
Les punks,
la déferlante punk. Avant les punks, il y a le rock progressif, vous savez, oui. Avec des morceaux qui
Genesis,
font...
tout ça.
Ouais, absolument. Genesis, Yes. Et des morceaux qui s'allongent. Alors, on a des morceaux qui font 5 minutes, puis après 7 minutes, puis après 14 minutes. Je crois qu'il y a Tales of the Photographic Ocean de Yes qui fait 1h21, je crois. Et il y a une ambition progressiste, c'est de faire du rock la musique classique du XXe siècle. Donc c'est vraiment composé avec, comme une rhapsodie, il y a des nouveaux instruments et tout. Et c'est génial, moi j'adore cette musique. Puis au bout d'un moment, ça fatigue. Et il y a les punks qui arrivent et qui cassent tout.
Ouais.
Ils font des morceaux de 2 minutes avec une guitare bon marché, et puis quelques paroles, et puis,
et là,
et puis surtout beaucoup d'énergie. Ouais.
Ouais, c'est ça, avec No Future,
ouais.
le slogan. Je l'ai bien dit, hein, No Future.
Ouais, c'est bien.
Oh my God. On arrive quoi ? Bah déjà au tableau, le tableau numéro 6. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. This is ground control to
Tom, you've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Eric Sauji avait le choix entre Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin ou David Bowie. Bon, il y avait aussi Rod Stewart, il y avait aussi...
Oui, parce qu'on fait un medley de power ballads, en fait, avec Aerosmith, avec Scorpion, enfin voilà, mais c'est un bon choix.
Le hard rock, Loudness is Greatness. Ça, c'est Stéphane Trisconi qui sera là tout à l'heure, qui doit être content. Il se dit peut-être qu'il va y avoir un morceau de métal. Mais non, Stéphane, il n'y en aura pas.
Et on est dans le glam
c'est David
rock,
Bowie. Ouais. C'est David Bowie que Eric Sauji a choisi. Alors, c'est qui incarne David Bowie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarne David Bowie dans le spectacle
fait,
ou pas du tout?
Qu'on fait à trois solistes, en fait. Space Oddity, c'est une superbe chanson. Alors là, on est dans ce qu'on appelle le glam rock, donc les paillettes.
Oui. Il y a des paillettes, là, hein, dans le spectacle le 5 décembre.
Bien sûr. Ouais. C'est pour contraster, justement, avec le heavy metal. C'est pour dire que c'est pas que du bruit, en fait, c'est aussi de la soie.
Et puis le dernier tableau de Une histoire du rock que vous présentez le 5 décembre à Moutier, au théâtre des Mascarons, c'est bien ça?
Exactement.
Dernier tableau, je vous laisse l'annoncer. On l'a déjà entendu un petit bout tout à l'heure avec Patti Smith. Eric Sauji, évidemment, c'est sa génération. Hein, il a choisi Nirvana.
Oui, on finit avec Nirvana pour ce qui est de l'ordre chronologique avec Smells Like Teen Spirit pour parler du grunge. En fait, ce qui se passe dès la fin des années 70, début des années 80, c'est que il y a une explosion. En fait, jusque-là, c'est assez facile de repérer les familles du rock. Mm-hmm. Et là, après les Sex Pistols, ça explose complètement. Il y a la New Wave, il y a la World Music.
Ouais, enfin, les sous-genres, il y a plein de trucs. Ouais,
vous prenez le hard rock, je ne pourrais pas vous citer tous les sous-genres de hard rock, les puristes avec le doom metal, le black metal, enfin, etc. Il y a une explosion, ça explose dans tous les sens et ça devient beaucoup plus difficile à raconter du coup. Alors voilà, moi j'ai parlé un peu de la New Wave, on parle un petit peu de l'électro, de la période électro en Angleterre, parce que c'est quand même aussi quelque chose d'important. Et puis par rapport à la sophistication des Anglais, souvent, vous savez, les Anglais, souvent on dit. Alors, le grunge, les artistes grunge, ils vont chanter sur scène comme ils sont dans la rue, avec une chemise de bûcheron.
Oui, c'est ça. Les Anglais, c'est le contraire. Et le pantalon à déchirer.
Et les Anglais, c'est le contraire, en fait. Ils vont dans la rue comme ils sont sur scène.
Juste l'intro de Nirvana, Smells Like Teen Spirit dans ce grand soir. On est très rock'n'roll. Merci beaucoup, Jérôme Jeannin, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Une histoire du rock, ce sera à découvrir le 5 décembre. C'est la première à la salle des Mascarons à Moutier. Mais je vous dis merde. Je vous le dis, hein, franchement.
Merci
pour le 5. Et encore plein de projets. Un grand merci à Eric Sauji, à la réalisation ce soir.
L'heure avec RTS Première.
Nadia Mitic à la programmation de ce grand soir. Après les infos, Stéphane Trisconi. Je vous souhaite une excellente soirée. Il est 20h.